quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour à tous. Eh oui, Daniel Lachance est en studio. On l'a déjà entendu. Ça va, Daniel?
Ça va très bien, vous-même.
Oui. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un grand auteur, compositeur, interprète qui nous a quittés, malheureusement. C'était au début du mois de mars.
Début du mois de mars. D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de dire. Je devais vous en parler la semaine dernière.
Oui.
Mais étant donné qu'il nous annonçait un verglas assez imposant.
Et aussi que Canalem était fermé.
Bon, d'ailleurs, je n'avais pas prévu que ça arriverait, mais je me suis dit non, je vais y aller le 18. Ça va être plus.
Bonne
très
décision.
Beau aujourd'hui. Ça va être
on est bien content de vous recevoir.
Ouais,
et on salue Serge Bradet qui soigne une sinusite qui doit certainement nous écouter. Il était bien malheureux de manquer votre présence en studio, Daniel. Et puis aussi, sa chronique, il va la refaire à un moment donné. Et puis, il y a aussi Isabelle Falardeau qui est peut-être à l'écoute. Nos collaborateurs du mercredi qui seront de retour, on l'espère, la semaine prochaine. Alors, Daniel, Jacques, Michel, aujourd'hui. Et puis, on aura également Cédric Tremblay-Maltais, qui est un artiste multidisciplinaire, un des porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui sera avec nous dans les prochaines minutes. Et qu'est-ce qu'on aura aussi au programme? La chronique cinéma avec Louise-Véronique Sicotte qui va nous parler de trois films, donc Dossier 137, un film français de Dominique Moll, extraordinaire. Et aussi La peau de l'ours qui met en vedette notamment Roy Dupuis. Et je ne l'ai pas vu ce film, je ne sais pas si Louise-Véronique Sicotte l'a aimé ou pas, mais elle va tout nous dire à sa chronique de 10h30. On aura également des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette. Hier soir, j'ai vu une pièce intitulée « Ornithorynque », c'est à la Grande Licorne. Sujet grave, c'est une chronique familiale, un texte enlevant de Joanne Parent, une langue extrêmement riche, mise en scène inventive. Je veux vous nommer quand même la metteuse en scène parce que j'ai vraiment apprécié ce travail ingénieux d'Anne-Marie White, des acteurs « suacoche », comme on dit.
« Suacoche ».
Alors, ils sont Acadiens Philippe-André Colette, Christian Essiambre et Isabelle Ouellette. Ils sont tous très, très bons, investis dans leur personnage, on y croit, de A à Z. Pièce qui se passe au Nouveau-Brunswick, à l'été 90, où il est question de sujets difficiles, de sujets tabous. Mais à un moment donné, on en parle de ces sujets tabous-là pour se libérer. Il y a un bébé qui s'en vient à l'horizon, puis on veut qu'il parte sur de bonnes bases.
Mm-hmm.
Mais aussi, on est diverti par les acteurs, le rythme, la langue, et aussi par Musique Plus. Il y a la musique pop qui est évoquée beaucoup dans cette pièce-là, parce que ça se passe dans les années 90. Et puis, le personnage, il y a une fille, deux gars... Elle s'appelle Sardine, son vrai nom c'est Jennifer, et on la ramène, elle nous ramène dans les années 90 alors qu'elle avait 12 ans, et son grand plaisir c'est d'être scotchée, entre guillemets, devant la télé et regarder toutes les vidéos, tous les vidéoclips.
C'était les débuts de la musique en continu.
Oui,
à musique
et puis elle est amoureuse de Jean Leloup, beaucoup de vidéos en noir et blanc, elle évoque aussi Madonna. Comment ça s'appelait le groupe Pop Hum the Jam, là, la chanson Pop Hum the
Jam? Pop the Jam.
Pop Hum the Jam. J'ai de la misère à dire le titre. Il y a du David Bowie aussi. Elle est comme fascinée par David Bowie, qui est avec Louise Lecavalier, qui ne comprend pas trop le langage, mais ça la laisse captive. Mm-hmm. En tout cas, il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. C'est très, très bon. J'ai passé une excellente soirée. C'est pour ça que je vous en parle. Il n'y a pas beaucoup de représentations, là. C'est jusqu'au 21 mars à la Grande Licorne. Et on sort de là. On est un peu zombie bouleversé parce que, c'est une pièce coup de poing.
Et on sort de là au printemps, c'est le 21 mars, la veille, c'est
c'est vrai.
Printemps. Ça change une vie, donc, cette pièce-là.
Tout à fait, c'est bien dit, Daniel. Le printemps qui arrive...
Vendredi, hein?
Vendredi.
Dans deux jours.
À 10h45.
Hey, on va retenir notre souffle, il est temps, là.
Bon, alors là-dessus, bien, on parlait du Nouveau-Brunswick. Edith Butler a enregistré une chanson qui s'intitule « Ça date pas d'hier » avec Mélisande. La voici. Elle est née au Nouveau-Brunswick?
Je pense que oui.
Ouais.
C'est une Acadienne.
Ah oui. Pocketville? C'est au Nouveau-Brunswick, ça? OK, on y va.
À côté de Pickpocketville.
C'est pas nouveau. château, gagner le gros lot. Des fois on tourne autour du pot, on choisit chacun des mots. Ou on est là avec nos gros sabots, on en dit trop.
C'est pas nouveau.
On attend l'heure de l'apéro pour pouvoir prendre sa mollo. Avec des amis, y'a jamais rien de trop beau. On suit le flow.
C'est pas nouveau.
Comme des complots,
c'est pas nouveau.
Des fois on grimpe dans les rideaux, on a peur de tomber de haut. Une tempête dans un verre d'eau, ça blesse l'ego.
C'est pas nouveau.
On peut jouer les super-héros, patiner sur le premier trio. On se dit coudon, on est bien dans sa peau. De l'amour, y'en a jamais trop.
C'est pas nouveau.
Plus ça change, plus c'est pareil.
Ça date pas d'hier, Mélissandre et Edith Butler.
Merci beaucoup, Mathieu. Oui, on a vérifié. Edith Butler est bel et bien née à Packetville. On a tout de suite le refrain ou la ritournelle
oui,
en tête hein, quand on dit Packetville.
Un refrain accrocheur. Oui. Un mot accrocheur qui déclenche un refrain, d'après moi.
Et
c'est comme ça que ça se passe.
Vous me disiez, Daniel, que cette chanson-là a été reprise par Lost Finger?
Pas Packetville. Tantôt, quand on parlait de Pump Up the Jam.
Ah oui, OK.
Ouais. Puis d'ailleurs, Lost Fingers, je pense qu'il s'était fait connaître avec cette chanson-là.
Packetville en jazz manouche.
Hey, bon, on vient peut-être de donner une idée.
Ça
on n'entend plus parler beaucoup
non,
d'eux
ce
autres.
Non, je ne suis pas sûr qu'il existe encore. Mais on a trouvé qui chantait Pump Up the Jam.
Philly and Technotronics.
Yes, Philly, c'est le nom de la chanteuse. Très bonne chanson, hein? Je voudrais la mettre un jour.
Mais en tout cas, ça m'a rappelé des souvenirs en voyant la vidéo apparaître sur mon téléphone. C'était toute qu'une époque.
Toute qu'une époque, oui. Alors, allons-y avec la presse plus. Toute qu'une époque, meurtre du propriétaire d'un dépanneur. Un hôpital a sonné l'alarme il y a 8 mois. L'été dernier, une tentative pour hospitaliser Xavier Gelatli de force a échoué pour des raisons juridiques, même si on avait constaté sa dangerosité. L'homme est aujourd'hui accusé d'homicide, c'est à lire dans la presse. Mon logis, c'est ici. Une locataire septuagénaire se bat contre le projet de conversion de son immeuble en copropriété indivise. La presse à Los Angeles, c'est Chantal Guy qui est allée aux États-Unis pour le film de Denis Villeneuve, Dune Part 3, en route vers une conclusion épique. Alors, on dévoilait hier la bande originale, la bande annonce du film qui met en vedette... Timothée Chalamet, l'incontournable, et puis Javier Bardem, ainsi que Zendaya. Et le film, on pourra le voir en décembre seulement. Donc, une promotion qui ne fait que commencer.
Mm-hmm.
Film de Denis Villeneuve. Et si je me tourne vers Le Devoir, on parle d'énergie fossile. À quoi ressemblerait un retour du gaz de schiste au Québec, malgré les nombreuses conséquences environnementales de l'industrie du gaz de schiste et les risques de fractures sociales mis en lumière lors de la saga sur cette filière d'énergie fossile? L'aspirante première ministre Christine Fréchette ouvre la porte à une relance de l'exploration gazière. Une photo aussi d'une dame qui s'avance sur le trottoir et on sent la difficulté, le vent qui l'empêche de bien avancer. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, oui. Quelques jours seulement après la tempête de pluie verglaçante de la semaine dernière, le réseau d'Hydro-Québec a de nouveau été mis à rude épreuve mardi. La violence des vents ayant abîmé des équipements et causé de nombreuses pannes dans la province. Je ne sais pas, dans votre coin, Daniel, c'est quoi la prairie?
Oui, nous, on n'a pas eu de panne de courant, mais des branches d'arbres cassées. On a trouvé des branches sur le terrain. Mais pas de panne, mais même pas de petits clins d'œil. Des fois, ça arrive, on va avoir un flash de courant.
Oui, on n'aime pas ça, ces clins d'œil-là.
Nous, c'était...
Bon, mais tant mieux. Mais vers 19h05 environ hier, 1 500 clients d'Hydro-Québec étaient toujours privés d'électricité et en avant-midi, ce nombre avait grimpé jusqu'à 320 000. Il y a beaucoup de petites pannes, alors je demande aux gens d'être patients. C'est ce qu'a indiqué le premier ministre François Legault. Et aussi, le Devoir à Saguenay regarde sur 30 ans de courts-métrages. Le festival s'ouvre aujourd'hui. C'est la 30e édition et ça va se poursuivre jusqu'au 22. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Denis Martin Chabot, mon collègue qui était là lundi, a réalisé une entrevue avec le cinéaste Sébastien Pilote, cofondateur du Festival Regard. C'est donc à écouter si vous allez sur canalm.vuesetvoix.com. Êtes-vous un amateur de hockey, Daniel?
Pas du tout.
Non, pas du tout. Les gars qui m'entourent à Canal M sont pas vraiment des friands du hockey ni du Canadien de Montréal?
Non, même pas. Mais je dirais qu'on dirait que la plupart, en tout cas, des amateurs de sport que je connais passent tellement de temps à regarder les résultats, regarder les parties, analyser tout ça. Je me dis, non, moi, j'ai une vie. Ouais. J'ai pas de temps pour ça.
Non.
J'ai d'autres choses qui m'intéressent. J'ai pas de temps pour ça.
Pour rebondir sur ce que Daniel dit, le seul gars qui vous entoure qui aime le hockey, c'est Yvan.
Yvan qui est un fou de hockey, qui va être avec nous demain d'ailleurs, et peut-être en studio. Alors, je sais pas si on va avoir l'occasion d'en parler avec lui, mais Cole Caulfield a compté son 40e but hier. Scénario parfait pour le CH et Caulfield, 40 buts et la victoire, point d'exclamation, dis-je bien. Point d'interrogation parce qu'on se demande est-ce qu'il va se rendre au 50e but cette année. Bien là, il va commencer par faire un 41e but. Là. Petit train va loin, mais ça va très, très bien parce qu'il a compté le 40e but en prolongation hier soir au Centre Bell face aux Bruins de Boston. Le Canadien l'a emporté 3-2. J'étais dans mon auto, j'écoutais le 98-5. Je criais. Je suis une fan de hockey, finalement, mais quand ils gagnent, je les aime encore plus. Ça, c'est niaiseux ce que je viens de dire. C'est assez cliché, là, mais on veut toujours que les Canadiens l'emportent.
Il y a Jean-Christophe aussi qui aime ça.
Oui, Jean-Christophe Matt, notre autre collègue qu'on salue. Alors, oui, les Canadiens étaient très, très heureux hier et les Bruins, eux, ils broyaient un peu de noir. On y va avec une chanson slammée par Cédric Tremblay-Maltais, qui vient nous parler de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et de sa vie à lui aussi, lui qui a une déficience intellectuelle. On l'écoute dans la chanson « En moi, il y a beaucoup de questions ».
En moi, il y a beaucoup de questions. Je vois la vie avec un gros point d'interrogation. Simples sont les pourquoi, complexes sont les réponses, les raisons et les actions. La vie en soi est une encyclopédie de pages blanches. Les règles du comment y vivre s'y retrouvent, elles remplissent les bibliothèques d'histoire et d'encre. C'est apeurant, c'est éblouissant. On dit qu'on est maître de notre histoire. Ça reste à voir. J'espère, pour ma part, passer de vieillesse à jeunesse. Être seul avec mon subconscient. Apprendre à me connaître, agir avec sagesse. Chevalier en quête spirituelle, je prépare mon évasion, je cherche la guérison au centre d'un cercle de feu de chandelle. Je passe mes journées avec moi-même à jouer à cache-cache. J'ai la pression de ne pas être à ma place. Autour de moi, des personnes croient mieux me connaître que moi-même, alors elles prennent des décisions à ma place. Faut-il que je m'y oppose, casse dans leurs intérêts? Faut-il que je prenne mon mal à patience en restant muet? ça n'a jamais choqué personne, car j'ai toujours fait. En vieillissant, on dit que j'ai droit à mes émotions, sentiments. Pourquoi les vivre si c'est pour rendre mon entourage inquiet? Désormais, je garderai ma vie ici secret. Ici, on me demande comment je vais. Je répondrai que tout va bien. Et le soir, j'irai me coller à une montagne d'oreiller. En me consolant, je rêverai d'amour. À mon réveil, toi, mon épouse de qui j'ai tant rêvé, tu disparaîtras. Cauchemar, la nuit m'a joué un mauvais tour. J'ai mal au cœur. En moi, c'est la sécheresse. À force de tout garder, j'arrive plus à pleurer. Sans eau, c'est impossible de faire germer la fleur. Le vent souffle sous les bourrages sauvages. La tige perd un pétale qui voyage vers le large. Sans savoir atterrir, fleurir, s'épanouir. J'ai besoin de souffler mon surplus d'air. Me faire léger jusqu'à me mettre à voler dans l'atmosphère. Parcourir les déserts, sonder le plein air. L'oiseau est prêt à quitter le nid. Il gazouillera toute l'énergie qui a dû garder en lui. Il veut faire ses expériences de vie. Et peut-être un jour, à son tour, il va bâtir ce que lui-même au passé a dû fuir. Température de pluie. Le soleil s'élève d'un prétend mélancolie. Le ciel donnera naissance à un petit arc-en-ciel.
C'est très beau, ça. Et merci. Moi, il y a beaucoup de questions par Cédric Tremblay-Maltais, mais si vous êtes intéressé à découvrir le EP au complet qui est sorti en 2022, je pense pas que vous étiez né, Cédric?
Ben oui.
Hein, vous étiez né en 2002?
Je suis né en 97.
OK, en 97. Alors, vous allez avoir 30 ans bientôt l'année prochaine. Cédric, votre nom d'artiste, quel est-il?
C'est l'enfant poète.
L'enfant poète, c'est beau, ça. C'est vous qui l'avez trouvé, ce mot-là?
Oui.
Ces mots-là? Pour vous décrire. Oui.
Ouais.
Et est-ce que vous avez un projet en cours concernant votre talent de slammer? Parce que ce EP date quand même de 4 ans.
Je vais faire une demande de subvention pour en faire un autre. Mm-hmm. Le premier, j'avais fait une demande, mais il a été refusé. Donc, j'ai dû payer par moi-même.
Oui.
Donc, ça m'avait coûté vraiment cher.
Ouais, c'est pas toujours facile, hein?
Fait que, je sais pas, tu sais, si j'ai pas la demande...
La subvention demandée.
Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai peut-être pas les moyens non plus d'en refaire un autre.
Bon, à suivre, donc.
Mais par contre, tu sais, je suis beaucoup au théâtre aussi.
Oui, oui, on va en parler de ça, Cédric. Mais avant et toute chose, j'aimerais dire aux auditeurs et auditrices que vous êtes avec nous parce que vous êtes un des, il y en a une vingtaine de porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui est en cours depuis le 15 mars et ce jusqu'au 21 mars. Et on vous reçoit, Cédric Tremblay-Maltais, aussi parce que vous êtes aussi une personne qui vit avec une déficience intellectuelle. Comment vous vous présentez, vous? C'est quoi avoir une déficience intellectuelle?
Mais pour moi, avoir une déficience intellectuelle, c'est, je veux dire, il n'y en a pas vraiment de différence entre une personne qui en a une personne qui n'en a pas. C'est plus au niveau social. Des fois, tu sais, on peut remarquer que certaines personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou le syndrome de l'autisme peuvent s'isoler.
Mm-hmm.
Dépendamment, tu sais, il y en a qui ça va être un trouble de langage, il y en a qui vont être...
Vous, c'est quoi votre déficience intellectuelle?
C'est plus au niveau académique, niveau scolaire... Qui est compliqué, là.
Ah oui?
Ouais,
vous avez quoi, des difficultés de lecture?
Ouais, je suis dyslexique. Je vais avec une dysorthographie et une dyslexie aussi. Mais tu sais, ça ne m'empêche pas d'écrire.
C'est ce que j'allais dire.
De faire de la musique non plus.
Est-ce qu'il y a des défis dans votre situation? Des défis à rencontrer? Des obstacles?
Ben, des défis, ouais, mais comme tout le monde, tu sais, on a tous des défis différents, puis il faut les surmonter, là.
Mm-hmm. Mais par rapport au fait que vous avez une déficience intellectuelle, est-ce que vous sentez que ça a mis des bâtons dans vos roues à vous?
Oui, mais c'est plus aux connaissances des droits, tu sais. Ça, c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas une éducation, je dirais, comme complète,
mm-hmm.
comparée à d'autres personnes qui vont aux études, qui ont une éducation comme plus formelle, puis qui peuvent aller un peu plus loin.
Qu'est-ce que vous voudriez avoir? Quand vous parlez d'éducation complète, ça serait quoi?
Ben, tu sais, il y en a qui peuvent aller à l'université. Il y en a qui vont... Je sais qu'au secondaire, ils ont des petits cours de droit aussi.
Mm-hmm.
Ça, j'en ai pas eu.
Vous auriez aimé ça?
Ben oui, c'est parce que je vois souvent des personnes en déficience intellectuelle qui ont un accompagnateur.
Oui. Comme vous aujourd'hui?
Oui, oui, mais certains accompagnateurs, je ne vais pas toutes les mettre dans... Tu sais, ils vont prendre des décisions à la place de la personne, sans même nécessairement avoir son consentement. Puis ça peut comme créer des enjeux, puis l'accompagnateur va juste faire dire « Oui, mais c'est comme ça que ça marche. » C'est ça.
J'aimerais avoir plus de connaissances, mais au niveau légal puis au niveau administration, ouais, mettons, pour mieux comprendre,
les situations, qu'est-ce qu'on a...
Décider par toi-même. Ouais.
C'est ça, mais tu sais...
Oui, quand j'ai dit que vous aviez un accompagnateur, ben c'est une accompagnatrice, elle s'appelle Émilie, et elle ne décide pas pour vous.
Non, vraiment pas. Moi, je suis trop revendicateur pour ça.
C'est bon, ça.
Alors, on vous a approché pour être un des porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Pour moi, c'est de passer des revendications pour certaines personnes... qui vivent avec une déficience intellectuelle, pour qui c'est un peu plus compliqué de parler, tu sais, il y en a qui... Puis de passer des revendications comme plus honnêtes pour pouvoir justement mieux évoluer dans une société où tu as besoin d'un petit diplôme pour vivre, ou que tu as besoin d'un salaire de maintenant avec l'augmentation de loyer qui est pas possible, comme 50 000 par année que nous, on peut pas aller chercher... parce que l'école, c'est compliqué, parce que c'est ça. Mm-hmm. Donc, je suis là pour essayer de revendiquer, pour avoir une meilleure condition de vie, puis être pris aussi en considération par des employeurs, par...
être pris au sérieux.
Oui, être pris au sérieux, puis être considéré comme tout le monde. On fait partie de la société, donc on la fait marcher. Moi, je paye, même si je vais avec une déficience intellectuelle, à la fin de la journée, j'ai payé mes impôts. Là, t'sais, je suis pas mis à l'écart de tout ça.
C'est pour ça que la thématique cette année, c'est quoi le plan? Ça a un rapport avec une question que vous posez directement au gouvernement. Là.
Ben oui.
C'est quoi votre plan? Aujourd'hui, c'est jour de budget au provincial. Espérez-vous que vous soyez considéré?
Ben oui, mais c'est ça. Mais moi, j'ai été chanceux. Là. J'ai trouvé parce qu'il y a un organisme qui a offert des appartements à prix réduit pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Mm-hmm. Il y avait énormément de personnes sur la file d'attente. Puis, tu sais, c'est un nouveau projet et l'organisme ne pouvait pas prendre tout le monde s'ils auraient aimé. Donc, il fallait qu'ils fassent une sélection de 10 personnes. Et j'ai été chanceux d'être pris. Tu sais. Donc, je vais avoir un...
Vous aimeriez que tout le monde soit...
Ben oui, mais tout le monde, tu sais, je veux dire, avoir un toit sur la tête, là, c'est un besoin.
Genre, oui.
Manger, c'est un besoin. S'habiller, c'est un besoin. Boire de l'eau, c'est un besoin. Puis dans la société, c'est pas tout le monde, tu sais, qui va remplir ses besoins. Puis avec l'augmentation, c'est encore plus dur, là. Tu sais.
Oui.
Puis que tu vis, même si tu vis pas avec une déficience intellectuelle, juste une mère monoparentale, je sais même pas comment qu'elle fait pour y arriver, tu sais.
Si la vie est un combat pour
si t'as deux, trois kids, c'est comment tu fais pour arriver tout seul, même si t'as pas de déficience, tu sais.
C'est beaucoup une question de
ou des pères aussi, comme monoparentales, parce que c'est pas que les mères, il y a aussi des pères monoparentales. Mm-hmm. Donc, tu sais, je veux inclure tout le monde.
Et Cédric, vous êtes, vous, un artiste multidisciplinaire. J'imagine que ben, je ne sais pas, je voulais vous poser la question. Est-ce que l'art vous aide à vous exprimer, sans doute, mais à passer vos messages?
Oui, beaucoup. Je suis très revendicateur. Je fais aussi de la poésie anarchiste qui revendique énormément de trucs sur le gouvernement.
T'sais, est-ce que vous sentez une écoute de la part des gens à qui vous vous adressez,
que
vous condamnez peut-être d'une certaine façon aussi de pas être de pas être là pour vous?
Mais je veux dire, je suis quand même écouté. Ça, c'est vraiment comme... Mon art, il est apprécié. Je ne peux pas dire le contraire. Mais tu sais, est-ce que j'en vis? Malheureusement, pas. Mais tu sais, comme beaucoup d'artistes aussi à Montréal qui
crèvent de faim.
Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça fait une autre réalité. Mais tu sais, je suis comme... Moi, je me considère chanceux de pouvoir faire ce que je fais, même si j'en vis pas, tu sais. Puis j'écris pas pour plaire non plus, tu sais, ça me dérange pas que le monde aime pas ce que je ferais, tu sais.
Pas de concession.
Je suis pas là pour me faire aimer, je suis juste là pour dire ce que j'ai à dire puis passer un message.
Ouais. Mais la meilleure façon d'être aimé, c'est d'être soi-même.
C'est ça.
Et vous étudiez au MUSE depuis 2018. Quel genre de formation vous suivez?
Les MUSE, c'est une école qui inclut les personnes qui vivent avec le syndrome de l'autisme, la déficience intellectuelle et qui prennent aussi des handicaps physiques. Qui ont pris une étudiante l'année passée. C'est pour nous mettre sur le marché du travail en art, que ce soit au cinéma, au théâtre, la musique. La musique, c'est un peu plus compliqué, mais tu sais, ils vont quand même faire des comédies musicales dans la musique, où est-ce qu'on va être payé. Il y a énormément de trucs qu'ils font, mais ils sont vraiment plus concentrés, je dirais, comme en théâtre et cinéma. Volet musique, il y en a.
Il y a du travail à faire encore de
mais,
ce côté-là?
Ben, au niveau producteur, c'est pas parce qu'eux, ils veulent pas, c'est à cause des producteurs qui... C'est comme plus compliqué pour eux. Mais je pense que les MUSE, c'est vraiment une bonne école, puis ils travaillent fort, puis on est rémunérés, on a des rôles principaux, je veux dire. Ma copine, elle a joué dans Stat, elle a un petit rôle principal.
Oui! C'est quoi son nom?
C'est Anne Tremblay.
Ah, Océane Tremblay. Cédric Tremblay, Maltais. Oh, vous avez le même nom de famille, finalement?
Ouais, c'est bizarre, mais ça a donné comme ça.
Parce que vous parlez de votre épouse dans la pièce qu'on a entendue, mais c'est pas ça.
Ah non, mais ça, je l'ai écrit avant de la rencontrer.
En 2022.
Ouais, c'est ça.
Cédric, vous faites partie aussi de la compagnie Théâtre Déchaîné. Êtes-vous en train de préparer un projet?
Oui, on va préparer un projet pour... ça s'appelle... Les souliers pleins de sable.
Ah, c'est beau
c'est,
comme c'est.
Un théâtre jeunesse qu'on va faire pour... on vise un public aussi comme neuro-atypique, mais tout le monde est le bienvenu.
Ça va être quand la représentation ou les représentations?
Je ne sais pas encore, on travaille fort là-dessus.
Ben, vous nous enverrez un communiqué. Là,
Ça va être un théâtre jeunesse, c'est ce que j'ai compris. Okay. Entre 9 et 13 ans. Là.
Vous allez jouer dedans à titre
j'ai joué dans la pièce.
OK. Il nous reste quelques secondes. Ça serait quoi le message que vous aimeriez transmettre aux personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et à leurs proches?
De ne pas lâcher, puis tu sais, à leurs proches. Mais tu sais, je dirais comme quand même des soutenir, puis essayer aussi de trouver un emploi avec eux. Parce que oui, les écoles travaillent fort pour obtenir des stages, mais c'est pas parce que tu fais un stage que tu vas être nécessairement rémunéré, puis que tu vas être engagé. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas te faire shipper dans un autre stage, puis là après ça... Tu sais, quelqu'un qui travaille chez Walmart... un stage chez Walmart, tu vas faire ton année complète chez Walmart. Puis là, le patron, tu sais, il va arriver puis il va dire « Ah non, désolé, on ne te prendra pas. » Puis là, à la fin, ils vont te shipper. Mais
ça prend plus qu'un stage. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, ça se poursuit jusqu'au 21 mars. Et Cédric Tremblay, Maltais, fier, porte-parole, investi, l'enfant poète. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord chaque jour, si tu ne peux répondre aux coups qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans la cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tour. N'oublie pas, si tu cherches à savoir quel chemin il faut suivre, si tu cherches à comprendre ce vers quoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive, mais peut-être qu'à cent, nous trouverons la voie. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si l'on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je n'en sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à mille, nous saurons la trouver. Viens, n'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière.
Très belle voix, Jacques Michel. C'est une version que je connaissais moins, Daniel, de « Amène-toi chez nous ». On la trouve, oui, sur un album de quelle année?
Cet album-là a été lancé en 2015. L'album s'appelle « Un nouveau jour ». Ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait rien enregistré. Et là, il a présenté cet album-là avec des reprises et quelques nouvelles chansons.
En 2015, ouais. Donc, il avait 73 ans, genre, lui qui est décédé à 84, ouais, ans.
Et je pense que ça vaut la peine de trouver cet album-là. On peut l'avoir sur YouTube, on peut l'avoir un peu partout. Ouais. Et il y a des versions très intéressantes.
Parce comme celle-là.
Oui, parce qu'on comprend que certains de ces enregistrements qui ont été faits dans les années 60, ça sonne peut-être pas comme ce qu'on aime.
C'est encore bon, je trouve.
Oui, c'est encore bon. Mais des fois, c'est le fun d'écouter, oui, des nouvelles versions.
Surtout donc, fait par l'artiste lui-même.
Ben oui, oui, c'est lui qui les reprend. Ouais. Ben, il y a d'autres artistes qui en ont repris aussi de ces chansons. On va revenir.
Oui, oui, oui. On a tellement de choses à dire. Et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a pas mal de temps.
Oui, ben on va le prendre le temps. Parce, oui, que j'ai beaucoup de musique à vous faire écouter aussi.
Il en a fait tellement.
Je suis resté surpris.
Ah oui?
Quand j'ai appris le décès de Jacques Michel, j'ai pensé à « Amène-toi chez nous ». Puis j'ai pensé à « Pas besoin ». Bon, bien, mm-hmm, entendu, comme tout le monde. Sauf qu'en fouillant un peu, je me suis rendu compte qu'il y a plein de chansons, plein de mélodies que je connaissais qui ont été faites par Jacques Michel ou interprétées par d'autres. Et je me disais, ouais, finalement, c'est un gars qui a eu toute une carrière, même s'il a pris vraiment une pause de plusieurs années pendant un certain temps, on ne l'a pas oublié parce que ses chansons ont été ramenées dans, mm-hmm, l'actualité à certains moments. Ça aussi, ça aide, ouais, à faire...
Mais quand on a appris sa mort le 5 mars, il y a eu beaucoup d'hommages et certaines personnes, oui, disaient, je pense, Gilles Veliquette, il n'a pas été assez reconnu pour tout ce qu'il nous a offert.
Bien, je vais vous en dire une bonne. Ça, c'est des choses qu'on trouve. On a beau chercher, je vous en ai déjà parlé. Quand on parle d'un artiste québécois, malheureusement, c'est difficile de trouver beaucoup d'informations. Quand je parle de Wikipédia ou n'importe quelle source sur Internet. Quand c'est un artiste américain ou britannique, bref, un artiste international anglophone, on pourrait, pendant des semaines, trouver plein d'informations puis aller retirer des choses, ouais, des fois plus rares qu'on n'a pas entendues.
On peut s'y perdre.
Oui. Et quand c'est un artiste québécois, bon, c'est son vrai nom, quelle date il est né, il a lancé 2-3 ouais, disques. Et
à
voilà,
moins qu'il ait sa propre page.
Oui, et même sur sa propre site, page, souvent c'est décevant parce que ça paraît que c'est l'agent de l'artiste, ouais, c'est l'agence de presse.
Marketing, oui.
Donc, on ne trouve pas nécessairement les anecdotes ou des choses plus rares.
Je sais pas si ça existe, une biographie ou une autobiographie de Jacques Michel. Je pense pas qu'il a écrit un livre sur sa vie.
J'ai pas trouvé ça. Mais par contre, j'en parlais tantôt avec Mathieu. Je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant juste 2 jours avant ma chronique.
Oui.
Cette chronique-là, j'avais déjà écrite avant. Hein,
oui, parce que vous deviez venir
mercredi du verglas, donc on n'a pas pu le faire. Je suis tombé sur un podcast sur YouTube. Et l'entrevue dure presque 2 heures, je pense 1h39, quelque chose
comme ça. L'entrevue avec Jacques Michel?
Avec Jacques Michel, qui est assez récente, ça date de 2 ans, je pense, 2023.
Venez par qui?
Je me souviens pas de son nom. Mais... facile à trouver sur YouTube, oui, podcast. Et là-dedans, il raconte plein de choses, justement. Gilles Valiquette, à un moment donné... Parce que je me souviens, quand on avait rencontré Gilles Valiquette...
Oui, il était dans le studio.
Oui, il disait que c'est vraiment Jacques Michel qui lui avait donné sa chance. Gilles Valiquette est devenu le guitariste de Jacques Michel. Il a travaillé pour lui. C'est Jacques Michel qui l'a incité à enregistrer sa propre musique et prendre sa carrière. Donc, on savait qu'il y avait un lien là et que c'était très important. Et je me souviens aussi que Gilles Valiquette a parlé de Jacques Michel récemment, dire que ça avait été très important dans sa carrière. Oui, on sait déjà tout ça. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans l'entrevue, Jacques Michel se dit lui-même comme quelqu'un, il dit « je suis pas un gars de gang, j'ai pas beaucoup d'amis, surtout dans le milieu artistique, c'est pas mon bag d'être comme ça ». Mais il dit « par contre, des vrais amis, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un qui est toujours là, c'est Gilles Valiquette. »
Ah oui,
c'est
il
un
l'a
ami
nommé.
Très important pour lui. Donc, je tenais à le mentionner parce que ce n'est pas des choses qu'on trouve par écrit dans les articles de journaux.
Ça vient vraiment de
Jacques
Michel.
Oui, ça vient du cœur. Et lui, oui, ce qu'il dit, c'est que non seulement c'est un bon ami, mais c'est quelqu'un qui a toujours été, je pense, très fiable pour lui. On travaillait beaucoup ensemble, mais c'est sûr que Gilles Valiquette, c'est un très bon musicien aussi. Ça aide d'être ami avec des gars comme ça. Bon, donc, Jacques, qui est Jacques Michel? On a connu quelques chansons. Son vrai nom, c'est Jacques Rodrigue. Hein? Je ne sais pas si vous saviez ça.
Oui.
Ça a été mentionné, il était né le 27 juin 1941 à Sainte-Agnès-de-Bellecombe.
En Abitibi.
Aujourd'hui, c'est annexé à Rouyn-Noranda. C'est pour ça que je ne trouvais pas le nom. Et déjà, à l'âge de 16 ans, il avait commencé comme chanteur et guitariste des Rock'n'Roll Kids. Et après ça, des Midnighters. Fait que donc, ça veut dire que dans ces années-là, fin des années 50, début des années 60, on chantait en anglais.
Ouais.
C'était ça.
Est-ce que c'était des reprises qu'ils
chantaient? Je pense que oui, il faisait surtout des reprises à l'époque. Et c'est ça, c'était en Estrie, parce que sa famille a déménagé, je pense, à Sherbrooke ou dans ce coin-là. Et en 1960,
Il a grandi en Estrie?
Oui, il est né à Abitibi, mais il a grandi en Estrie. Et en 1960, il a fondé un groupe qui s'appelait les Colibris. Donc là, on commence le côté francophone pas mal plus. Et il chantait principalement des chansons francophones.
Il y avait les Beatles, puis il y avait les Colibris.
Il y avait les Colibris. Et une autre sorte de bébite volante.
Oui.
Mais lui, c'était vraiment... Il s'intéressait aux francophones et ses idoles à l'époque, c'était Abeko, Aznavour, Brel et des choses comme ça. Mais on s'entend qu'on est en 60, là, on est avant les Beatles, les Rolling Stones, tout ça, là, ça a changé beaucoup après. Et en 1963, il aurait eu son premier contrat solo dans un cabaret montréalais, le Café de l'Est. Et il se serait fait remarquer par nul autre que, là, les plus jeunes ne reconnaîtront peut-être pas ce nom-là. Mais
là, ils vont l'entendre.
Muriel Millard.
Muriel Millard.
Ouais, c'est Muriel Millard qui l'aurait remarqué. Il l'a invité à participer à son spectacle à la Comédie canadienne. Donc,
L'ancien TNM.
Oui, donc il a commencé comme ça. Et en 1965, il a lancé un premier album qui s'intitulait tout simplement « Jacques Michel et ses chansons ouais. ». Oui. Ça faisait un petit peu chansonnier. Oui, puis ça faisait bon. Et le premier prix de sa carrière, c'est qu'il a été déclaré révélation de l'année au Festival du disque en 1965. Ça, avant, j'imagine, c'est ce qui est devenu la disque avec le temps. Hein. Ça s'appelait Festival du disque à l'époque.
Ah, il y a eu une reconnaissance assez rapidement, rapide.
Et apparemment, ça, j'ai vu ça, je pense, sur le site Disco Québec. Apparemment, il aurait gagné une chanson qui était comme une parodie. Ça s'appelait « Yé-Yé contre Yaya ». Parce qu'à l'époque...
Un clin d'œil à pop, Joël Denis.
Ouais, la musique pop qu'on appelait la musique yé-yé à l'époque. Fait que lui, il avait fait... Lui était plus sérieux, hein, mais il avait cette chanson-là un peu pour se moquer de cette vague-là, mais il a gagné un prix avec ça.
Ouais. Donc, moi, je me souviens, j'étais toute petite, là, on regardait Jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que on l'avait vu chanter? La première chanson que j'ai vue chanter Jacques Michel, c'était « Je reviendrai te chercher sur un dinosaure
». Oui, mais ça, il en parle dans son podcast aussi.
Ah oui.
Parce qu'au début... Il y avait un succès, on pourrait dire, il y avait un succès d'estime. Les gens appréciaient ce qu'il faisait, il écrivait bien, il y avait des belles mélodies, il y avait une voix, il y avait une présence,
ce
qu'il faut.
Super.
Mais il ne vendait pas tant que ça. Non. Parce qu'il est arrivé justement dans ces années-là, là, on parle 65-66, là, il est dans les années yé-yé. Là. Fait que c'est les groupes, hein, c'est les Sultans, les Oulops, les Classel, c'est ça qui marche.
Difficile de rivaliser avec le Beau Blues.
Ouais, puis lui, il arrive avec des chansons plus à texte. C'est pas des petites amourettes d'ado.
Plus un chansonnier.
Ouais, donc c'est plus sérieux. Donc tu le mets dans quelle case? S'il passe à la jeunesse d'aujourd'hui, ça fait pas fureur par rapport aux autres groupes. Donc je pense que ça a été très lent son
ascension.
Son ascension vers, je sais pas, plus la reconnaissance du grand public. Ouais. Même si on savait qui c'est, on connaissait ses chansons, ça prenait du temps.
Il gagnait des prix, mais il n'y avait pas encore nécessairement la popularité.
Voilà. D'ailleurs, ça, l'histoire du dinosaure, là, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a certains producteurs qui disaient, tu devrais faire des chansons qui accrochent un peu plus. Tu devrais faire des versions. Tout le monde fait des versions.
Mais oui, fais-en toi aussi. Fais-le donc.
Prends une chanson en anglais qui marche déjà, puis traduis-la en français. Lui, il n'a jamais, jamais rien voulu savoir de ça. Lui, il voulait faire ses chansons.
Il était très indépendant d'esprit.
Oui, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de gérant qui disait. Il a toujours été son propre gérant.
Ça ne surprend pas.
Il travaillait tout seul. Donc, le dinosaure, c'est venu après le fait que... Saviez-vous qu'il avait déjà écrit des chansons pour les lutins?
Non.
Vous vous souvenez des Lutins?
Ça me dit quelque chose.
Ben, les Lutins, c'est un groupe dans les années 60 avec les Sultans, tout ça. Le chanteur, quand ils ont commencé, le chanteur avait 14 ans seulement. Puis, à un moment donné, Jacques-Michel a écrit deux chansons pour eux autres, dont leur plus grand succès, qui est paru en 1968. Le chanteur avait alors, à ce moment-là, 16 ans, je pense. Simon Brouillard, un gars de Saint-Hyacinthe.
il venait beaucoup de Saint-Hyacinthe.
Ouais, donc... Jacques-Michel a fait beaucoup d'argent, je pense, avec les deux succès des Lutins. Et là, il a dit, moi, je vais en faire une, moi aussi. Fait que là, il a fait les Dinosaures. Mais on va écouter, il y a peut-être des auditeurs qui se souviennent des Lutins, ou sinon, peut-être vous allez reconnaître. On va écouter les deux succès des Lutins qui ont...
Lorsque je l'ai vu dans Quand tu sens, oh, oh,
Monsieur le robot, ça, je m'en souvenais, mais l'autre, Rock et Belles Oreilles, c'était des comics, ça, à la
oui,
télé?
Oui, 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 c'était des dessins animés de Hanna-Barbera, la oui, même oui, compagnie oui. que les Pierres à feu, oui, Yogi l'ours
oui,
et tout
Sophie
ça.
Oui, Sophie la sorcière.
Oui, donc c'était mais... très actuel. Genre, j'avais fait une chanson là-dessus et on a cru reconnaître à la fin, RBO, c'est très oui. inspiré de Rock et Belles Oreilles. Pour la chanson et pour le titre. Pour le,
wow,
le nom
belle trouvaille, Daniel. Ouais.
Donc, c'est Jean-Michel qui a écrit ça. Et dans
l'entrevue, Jean-Michel? Ah, Jacques, Jacques-Michel, oui. Ouais.
Et,
dans et l'entrevue dont vous parliez, oui. Mathieu a fait des recherches. Mm-hmm. Et puis, cette entrevue est menée par Ger Alain.
Oui.
J-E-R-R Alain.
Ça s'appelle le podcast WhatsApp.
Exactement, c'est ouais. podcast WhatsApp, épisode 314.
Oui, okay, pas WhatsApp, WhatsApp.
WhatsApp.
Merci. Oui.
Et Jacques-Michel disait... Monsieur le robot, il a vendu, je pense, 125 000 copies et Rock et Belles Oreilles, 100 000 copies. Fait que pour lui, ça a dû quand même mettre un petit peu de beurre sur son pain. Là. Fait que,
probablement.
Ça,
de grâce
temps
à Monsieur
temps,
le
ça
robot.
Fait du bien, ouais.
Ouais.
Ça fait du bien de travailler un peu pour les autres. Donc, il a continué quand même à faire d'autres albums. Il a fait un album qui s'appelait Citoyen d'Amérique.
Pour les lutins ou pour lui?
Non, non, pour lui. Okay. Là, il a refait des albums pour lui. Et en 1970, son cinquième album, Citoyen d'Amérique, sur lequel il y avait Un nouveau jour va se lever.
Ah, là,
et
Amène-toi
chez
succès.
Nous, qu'on
ah,
a entendu. Ça, c'est vraiment des grands succès.
Ouais.
Et en 1970 aussi, il a gagné le grand prix du Festival de Spa en mm-hmm. Belgique avec Amène-toi chez nous. Le grand prix, ça veut dire auteur, compositeur, interprète, là, pas juste pour la chanson ou pour. Il a gagné le gros lot, le package.
Comme Nicole Martin l'avait gagné
ouais,
déjà.
Et à ce moment-là, c'est là que Radio-Canada a commencé à parler
s'intéresser
plus
à
lui.
Mais oui, nul n'est prophète en son pays.
Gagne, c'est ça. Fait que là, sa carrière a commencé à décoller un peu plus. Et la même année, il a gagné le deuxième prix au Festival international de la chanson populaire de Tokyo.
Ah,
avec
oui.
Un nouveau jour va se lever.
Deuxième prix.
Deuxième prix. Donc, et là, à ce moment-là, je ne me souviens pas c'est qui, mais il y a des producteurs qui lui ont suggéré, il y avait un autre concours, je ne me souviens pas où. Là, il a dit non, non, là, ça va faire,
ça va faire les concours.
Parce que j'en ai déjà gagné deux, il ne faut pas pourquoi trois, ça serait plus ouais. intéressant. Puis il dit, si je ne gagne pas le troisième, je viens de scraper. Ce que je viens de faire, là.
Oui.
On s'arrête là. Il était très sage.
Bonne stratégie.
Je pense qu'il était très sage oui. dans sa décision.
Sage et stratège.
Oui, et il y a tout, je pourrais vous en parler des heures, là, mais il y a toute une histoire aussi sur... Un nouveau jour va se lever. On est en 1970, en pleine crise d'octobre. Cette chanson-là a eu de la difficulté à se faire une place sur les radios parce que les gens disaient « Un nouveau jour va se lever », c'est un encouragement
ouais.
à l'indépendance, à la révolution, blablabla. Donc ça a été assez pénible pour lui. Par contre,
mais
la chanson
a fait
quand même,
son chemin.
Elle a fait quand même son chemin. Elle est devenue connue et populaire et je pense qu'il en est assez fier. Ensuite,
et il a raison.
Oui, et puis ça déboulait des albums à ce moment-là. En 71, il en a lancé un autre, SOS, on va couler.
SOS, on va couler,
ouais,
ça me dit rien.
Probablement qu'il y a des extraits là-dedans qu'on va entendre tantôt.
Ouais, okay.
En 72, il a lancé Pas besoin de frapper.
Oh, c'est bon, ça.
Je vais juste vous faire une petite anecdote là-dessus parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on écoute des extraits
ouais.
aussi.
Qui a été reprise par Sylvain Cossette, entre autres.
Par Sylvain Cossette, ça lui a donné une deuxième vie.
Ouais, ouais,
ça,
ouais.
Jacques-Michel
souffle.
Était très content de ça parce qu'il dit, là, c'est une nouvelle génération qui va entendre mes chansons. Il dit, même moi, si j'en fais une nouvelle version, je vais atteindre le même public qu'avant. Si c'est un plus jeune que moi qui le fait, il va chercher
ouais.
un nouveau public. Ça, c'était une grande fierté pour
mais
lui.
Comme avec Star Academy qui a
oui,
repris la chanson.
Oui, une autre fois
ouais.
aussi. Ça aussi, ça lui a donné un autre tremplin.
Et c'est pas fini. Donc, c'était quoi la chanson?
Non,
non, ça c'est Stéphane
Van
Emmanuel.
Ouais,
ouais.
Je me souviens pas c'était quoi la chanson.
C'est-tu Nono?
Oui, mais je vais vous faire écouter des extraits parce que là, je vois que le temps file et je parle beaucoup. On a des extraits des chansons de Jacques-Michel.
Quand tu es là, plus rien n'est semblable, plus rien n'est pareil,
c'est comme si tu me donnais d'autres oreilles. Quand tu me parles, quand tu me parles.
Sur un dinosaure, mes chéris sèches tes jolis yeux. Je reviendrai te chercher sur un dinosaure et nous irons nous balader tous deux.
Car de tous les coins du monde, on viendra la visiter.
Hey!
Alors j'y mets du solide, des bouts de ciment et je prends bien mon temps. Tout comme une pyramide, elle bravera le temps et pour au moins 100 ans.
Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps.
Hey! Là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent, mamie m'appelle. Là le bon vent, là le joli vent.
Bonne et on les connaît pas mal toutes, quand ces chansons, Jacques-Michel.
Oui.
Daniel, je voulais juste vous dire, Un nouveau jour va se lever, ça a été le thème de Star Academy en 2004.
Oui.
Et puis, Wilfried le Boutillier, lui a remporté en 2003, oui, Wilfred, et non Wilfried, le grand gagnant de Star Academy en 2003. Il avait interprété « Amène-toi chez nous ». Des chansons qui ont donné comme un nouveau souffle, justement.
Oui, ça, c'est dans l'entrevue, d'ailleurs, il en fait mention, Jacques-Michel. Il était très content de voir que des plus jeunes reprennent ces chansons, justement, parce que ça leur donne une nouvelle vie. Puis
il y avait cette générosité-là.
Ça lui a fait parler de lui.
Ouais.
Vous saviez qu'il avait mis fin à sa carrière, volontairement. Il avait mis fin à sa carrière de chansons.
Il a fait le tour du monde,
chansons.
Je pense,
ouais,
en,
le tour du
en,
monde
voilier.
En voilier. Et aussi, il a écrit des émissions de télé pendant un certain temps.
Le village de Nathalie, avec sa conjointe
lui,
de l'époque, Eve Désir.
La rue Tabaga. Puis il y avait aussi animé une émission.
Et non, la Rita Baga.
Non, c'est ça.
On va se laisser.
Oui. Ben,
mais non, allez-y, là. Ouais, je voulais pas vous couper.
Non, non, mais juste pour dire que après ce break, ce grand break-là, il est revenu à la chanson avec son album en 2015. Il était très content de revisiter certaines de ses chansons et d'en présenter quelques-unes.
On le salue, on le remercie, Jacques-Michel.
Merci beaucoup, oui, pour toute cette belle musique.
Merci aussi à vous, Daniel Lachance.
Bienvenue.
Pousse la porte quand tu voudras, il y
Pierre et Raymond, Yves et Claire et René, Marcel et Bernard, Gilles et Guy et Yvan, Simone et Gatien, Louise et Michel et Serge, John, Rick et Quentin.
Maintenant, on parle de cinéma avec notre chroniqueuse cinéma, Louise Véronique Sicotte. Bonjour, Louise Véronique.
Bonjour, Hélène.
Une bonne cuvée cette semaine,
oui,
ce mois-ci.
Ce mois-ci, avec trois films dont les personnages principaux sont féminins.
Miroir numéro 3 par Christian Petzold, réalisateur que je ne connais pas du tout. On n'a pas la bande-annonce parce que...
Parce que c'est en allemand.
Oui, on ne comprend
c'est
pas
sous-titré
vraiment.
En français, par ouais. contre, mais...
Oui, les sous-titres à la radio, là, c'est...
Ça ne passe pas, hein? Moins, c'est plus difficile.
Oui, un peu plus.
Alors, c'est un film allemand, bien sûr, un drame psychologique et qui met en vedette sa muse, en fait, parce que c'est la quatrième collaboration qu'elle a avec le réalisateur, Paula Baer, et également Barbara A-O-R, j'espère que je le prononce bien. C'est le titre, d'ailleurs, Miroir numéro 3, fait référence à la pièce pour piano du compositeur Maurice Ravel. Parce que le personnage principal est une pianiste plutôt mal dans sa peau, qui a vraiment des problèmes un peu psychologiques.
Quel âge, environ?
Dans la trentaine, peut-être, mm-hmm. Début trentaine, et qui va... survivre miraculeusement à un accident de voiture. Son compagnon va décéder et elle sera recueillie sur les lieux par une femme qui est un peu mystérieuse, qui va l'héberger pendant plusieurs jours et un lien étroit va s'installer entre les deux.
Elles ne se connaissent pas du tout.
Elles ne
là.
Se connaissent pas du tout, mais...
Est-ce qu'on est dans l'inquiétude?
L'inquiétude, oui. Laura, donc la pianiste, va décider de s'installer chez elle et Betty... va...
Celle qui l'accueille.
Oui, qui l'accueille, va en prendre soin. Et là, arrive dans le récit le mari de Betty et son fils qui vont venir les visiter. Et une sorte de huis clos à quatre va s'installer dans le récit. C'est un film très lent et beaucoup nourri par le non-dit. Alors, beaucoup par les réactions. Mais Laura va découvrir que cette bienveillance n'est pas aussi authentique qu'il n'y paraît. Alors, que se passe-t-il entre ces personnages?
Est-ce qu'on se sent en danger tout le long du film? Ou...
Je dirais pas en danger, je dirais plutôt en mystère, dans le mystère.
On est intrigué.
On est intrigué,
ouais.
Oui, oui.
Ça
oui.
se passe en Allemagne?
En Allemagne, dans la campagne allemande. Oh. Et le réalisateur voulait absolument que ce film soit tourné entre deux saisons. Alors, entre la fin de l'été et le début de l'automne. Pourquoi? Pour le reflet des émotions, la mélancolie, un peu la peine, avec parsemé un peu de joie.
Donc, alors, on n'est pas dans la comédie ici.
On n'est pas dans la comédie, non. Et c'est une mise en scène très dépouillée, très lente, et il y a aussi cette complexité psychologique entre les personnages.
Est-ce qu'on comprend à un moment donné qu'est-ce qui se passe?
Oui, bien sûr, on comprend, mais ce que le réalisateur nous fait découvrir, c'est qu'il nous surprend parce qu'il ne nous amène pas là où on pense aller.
Ah, ça, on aime ça.
Ça, on aime ça.
Ouais.
La thématique du deuil, le deuil de l'enfant, est aussi récurrente dans ses autres films, donc c'est aussi le sujet du film. Et si on est très attentive et attentif à la première scène, alors, vous allez voir un homme qui est tout en noir, qui va faire de la planche à pagaie sur la rivière. Et c'est aussi le reflet de l'état psychologique de Laura.
Il y a une clé, là.
Il y a une clé, là. C'est à voir, oui, c'est à voir. Ça va être au cinéma du musée à partir de vendredi. Donc, Miroir numéro 3. Et avec la formidable Paula Baer.
Parfait. Alors, ouais. On ira le voir. Vous nous donnez envie de voir ce film.
Oui.
Mais dans un seul cinéma. J'espère qu'il va être disponible en vidéo sur demande.
J'espère bien, mais oui. Parce que c'est du cinéma allemand quand même qu'on aime. Très psychologique, oui. Très lent.
Et les sous-titres sont faciles à suivre.
Oui, oui, okay. Oui, tout à fait. Tout
La
fait.
Peau de l'ours, maintenant, c'est un film d'Alexandre Trudeau, le frère de l'autre.
Oui, le frère de l'autre.
Et James McLellan. On écoute la bande-annonce.
Tori, c'est juste pour deux semaines.
Je voudrais bien retourner à l'école. C'est juste que je peux pas juste tout réparer comme par magie.
Je t'aboute pas.
Ça va finir par y passer. Ça va être correct.
C'est une vraie?
Ouais, c'est vrai.
Une peau d'ours? C'est bizarre.
C'est dur de savoir quel moment vont te marquer pour que tu deviennes ce que tu es. Couvre tes oreilles.
On n'abandonne jamais. OK, Paul, pas ici.
Le vent, le froid ne nous lâche pas. Nous non plus, on ne lâche pas.
Qu'est-ce que tu regardes?
Un grand lac. Parce qu'il est à cheval sur la frontière, ça arrive qu'il y a du monde qui essaie de passer. Pas toujours avec les meilleures intentions.
Mon frère, la glace a lâché.
On les réchauffe, puis vite. Je vais revenir dans pas longtemps.
Non, s'il te plaît, toute seule, je suis pas capable.
Puis à garder le feu, puis...
Est-ce que tais-toi?
Dire que le démon t'a pris?
Pourquoi faut toujours que ça soit difficile avec toi pour lui?
La peau de l'ours, j'ai reconnu la voix de Roy Dupuis.
Oui, tout à fait. Il tient le rôle, un des rôles principaux. Le grand-père, qui s'appelle Ben.
Roy Dupuis, grand-père.
Oui, bien, il s'est rendu à l'âge, là, maintenant. Ah, ouais. Grand-père d'une adolescente interprétée par Malia Baker. Et d'ailleurs, la première du film a lieu demain, hein, avec, au Cinéplex Quartier Latin, avec le tapis rouge.
Et tout, et tout.
Et tout, et tout. Oui, grande première. C'est un film qui se déroule au Manitoba, en plein hiver, hiver glacial, grandes étendues de neige, de bois et de lacs. Et c'est donc l'histoire, en fait, en résumé, c'est la jeune fille Tori, qui a 16 ans, donc adolescente plutôt tourmentée, mal dans sa peau, qui va habiter donc temporairement chez son grand-père, Ben, qui habite dans le fond des bois.
Ça s'appelle pas Ovila, là.
Non, mais c'est un peu Ovila dans le... Oui. Oui. Maintenant. Et dans la première partie du film, on voit un peu l'apprentissage, l'apprivoisement entre les deux, le grand-père et la jeune fille. Il va lui montrer tout ce qu'il sait pour survivre dans la forêt, tirer de la carabine, faire de la motoneige, allumer du feu. Et ça va lui servir beaucoup dans la deuxième partie du film. Parce que comme on l'a vu...
À
la petite. Parce que comme on l'a vu dans la bande-annonce, c'est l'atmosphère est un suspense psychologique avec de l'action, film de genre en fait. Et là, va arriver deux frères, deux inconnus qui ne sont pas nécessairement des touristes dans cette région isolée. Alors, un climat de suspicion va s'installer. Et bon, elle va apprendre à la dure devenir une adulte. Alors, la deuxième partie bascule dans un film d'action et de genre.
Est-ce qu'on est dans l'horreur?
On est dans le bois fou, ouais, on pourrait dire pas nécessairement, là, mais... Écoutez, moi, je trouve que ce film a des invraisemblances dans l'action, dans le scénario, des aberrations. Alors, ce qui fait
comme
que...
Comme quoi? Comme, ben, donnez-nous un exemple.
Comment elle peut traverser un lac très, très peu habillée et en survivre.
On a froid pour elle.
On a très froid pour elle, en fait. Donc, il y a d'autres... Je ne veux pas dévoiler les autres situations, mais qui sont... La fin est plutôt... mon Dieu, un peu tiré par les cheveux, je dirais. Mais le personnage de Roy Dupuis, je dirais que c'est pas son plus grand rôle. Bon, beaucoup dans la bienveillance, bon, mais...
Un peu fade ou...
Un peu fade, je dirais. Et il y a aussi Robert Naylor qui a...
Oui!
Qui a une carrière bilingue, là, en anglais et en français. Alors, lui, c'est un des frères, et puis il joue un peu un maniaque sadique. Bon, peut-être que c'est agréable et stimulant à jouer, mais je veux dire, c'est pas mal unilatéral comme personnage. Ah. Unidimensionnel et ouf, on a du
ça
mal.
Ça manque
à...
de nuances.
Ça manque pas mal de nuances. Bon.
Vous n'avez pas été emballée.
Je n'ai pas été emballée. C'est quand même tourné au Manitoba. La direction photo est quand même magnifique parce qu'on voit les grandes étendues. Mais sinon, je pense que c'est la première collaboration entre les deux. C'est qui co-réalise et qui co-scénarise. Il voulait en faire un film de genre. Moi, je n'y ai pas vraiment cru, là, je dois vous dire.
La peau de l'ours par Alexandre Trudeau et James McLellan.
McLellan.
C'est bien ça.
Et Malia Baker, bon, elle est très connue aussi du côté anglophone pour son rôle dans The Baby Sisters Club, aussi une télésérie. Ouais. Alors, un rôle très physique pour elle, hein, mais bon... disons que c'est pas
ma priorité. Ça n'a pas été votre tasse de thé.
C'est pas ma tasse de thé.
Alors, on poursuit avec vous, Louise Véronique Sicotte, avec un dernier film qui s'intitule « Dossier 137 » par Dominique Moll, un réalisateur que j'aime beaucoup.
Comment vous justifiez votre geste?
Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers.
C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball.
Les flics, là, qui ont fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait.
Mais tu baisses d'un ton, là.
Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien.
On nous a dit que la République était en danger.
On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents.
Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue.
Le gouvernement était en panique.
Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez?
Mais sur les images, on voit pas bien.
Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien.
Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue?
Qui a dit que j'étais à la fenêtre?
J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire.
Tu vas pas t'y mettre, toi aussi?
Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place?
Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police.
Ils sont jamais sanctionnés.
Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats.
Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand?
Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble?
Je sais plus, moi.
Quel film intelligent, je l'ai vu.
Oui, hein? On partage la même opinion.
Dossier 137 par Dominique Moll.
Oui, avec la fameuse interprète Léa Drucker qui a d'abord emporté le César de la meilleure actrice.
Oui, tout récemment.
Tout récemment, oui. Elle incarne Stéphanie Bertrand. Comme on l'a entendu dans la bande-annonce, c'est une enquêtrice assez spécialisée parce qu'elle enquête sur la police. Donc, c'est la police
qui enquête
de la
sur
police,
la police,
c'est ça.
Ouais.
Et c'est une organisation quand même assez opaque. Alors, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est pour ça que ça a beaucoup créé l'intérêt chez le réalisateur Dominique Moll. Il a pu donc rentrer dans cette organisation-là et de voir de l'intérieur le fonctionnement, les difficultés, l'analyse de ces enquêtes.
Dominique Moll, situez-le-nous, s'il vous plaît.
Oui. Ben, c'est un réalisateur français qui a réalisé auparavant La nuit du 12, que moi, j'avais adoré. Alors, également une autre enquête policière. Et d'ailleurs, ce film-là, La nuit du 12, avait remporté 7 Césars.
Ah oui,
oui. Oui, en 2023.
Et Harry... Un ami qui vous veut du bien, ça c'était en 2000 avec Sergio Lopez. Je me souviens encore de ce film-là, tellement bon, mais en même temps bon. qui était bouleversant, là,
oui.
Qui était très troublant comme
très
film.
Très troublant.
Ouais.
Mais ces films-là sont aussi très troublants. Il a une réputation de réalisateur très méticuleux. Hein. Donc, il n'y a aucune improvisation. Les dialogues sont vraiment suivis à la lettre par les interprètes.
Et on sent qu'il montre les choses. Il raconte l'histoire, mais on ne le sent pas dans le jugement.
Non, on ne sent pas dans le jugement.
Il fait confiance à son public.
Tout à fait.
Ouais.
Et aussi le fait qu'il ait choisi comme rôle principal une enquêtrice, une femme, femme qui enquête, donc qui va interroger des policiers hommes. Alors, il voulait aussi renverser la situation de pouvoir habituelle. Alors, ça, c'est très, très intéressant.
Et Léa Drucker dans son rôle,
elle
on
est
y
crédible,
croit de bout en bout.
Elle,
on est avec elle.
On est avec elle parce qu'elle a des doutes. Ça devient sa priorité numéro un, ce dossier-là, parce qu'on va découvrir que ce n'est pas seulement un dossier, mais qu'il y a une implication plus personnelle. Alors, c'est filmé à Paris parce que ça raconte aussi, même si c'est fictif, c'est inspiré de faits réels, des manifestations des Gilets jaunes dans les années 2018, ouais. Hein, où il y avait beaucoup de violence avec la police. C'est aussi, ça montre aussi la petite ville de Saint-Dizier, qui est un peu le bastion des Gilets jaunes à cette époque-là aussi, une ville où...
Là où l'enquêtrice est née.
Est née également, oui. Et peut-être au niveau de la forme, j'ai remarqué la même type de forme entre la nuit du 12 et le dossier 137. Il y a beaucoup d'interrogatoires qui sont... très, très rapide, très assuré, de manière frontale, comme si le spectateur était à la place de l'enquêtrice. Mm-hmm. Et disons, le montage est très rapide, ce qui fait qu'on est toujours vif, oui. Vif. Alors, on alterne entre un témoignage et la scène qui a été racontée. Et à ce moment-là...
On est vraiment captivé.
Oui,
hein?
On est tenu en haleine du début à la fin. Alors, c'est vraiment un film aussi sur le fonctionnement de cette police on découvre un peu les coulisses de ce type de police. Et il y a aussi, pour alléger le ton, il y a quelques petites vidéos de chats, de chatons, n'est-ce
oui,
pas?
C'est
alors,
vrai.
Pour elle, c'est un peu un réconfort pour l'enquêtrice Stéphanie Bertrand.
Et sa mère.
Et sa mère, ouais. Et sa mère.
Mais c'est à voir.
C'est à voir, c'est un film intelligent.
Qui a pris l'affiche ou qui va prendre l'affiche?
Vendredi. Oui. Donc, c'est
jours,
à voir. Ça va être au cinéma Beaubien et ailleurs, je l'espère.
Oui, on l'espère bien parce qu'il faut voir ce film important. Dossier 137, réalisé par Dominique Moll, et c'est Louise Véronique Sicotte qui nous en parlait dans sa chronique cinéma. Merci, Louise Véronique. On se retrouve en avril.
En avril. Toujours un plaisir.
Et on prend des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
On vous retrouve avec plaisir parce que la semaine dernière, Canalem était fermé, étant donné la situation météorologique, beaucoup de verglas. Et de ces temps-ci, là, ça se passe particulièrement chez vous. Là, depuis hier, il y a de la neige, puis même du verglas?
Oui. En fait, lundi, Sudbury était pas mal fermé, puis même un peu mardi, il n'y a pas grand-chose qui se passait. Quand on s'est réveillé lundi, toutes les routes autour de Sudbury étaient fermées, donc c'était impossible d'arriver ou de partir. Ça veut aussi dire que, vu que les deux portions de la transcanadienne étaient fermées, c'était impossible de traverser le Canada pendant une journée,
De
journée.
C'est-tu sérieux?
On a eu environ 50 cm de neige, puis je reste dans un cul-de-sac, là, puis... La déneigeuse n'est pas passée, je ne peux pas sortir de ma rue avec ma petite voiture.
Vous êtes emprisonné.
Oui, on peut juste
50 cm, c'est beaucoup de neige, hein? Beaucoup de flocons.
Oui, puis il est tombé un peu de verglas par-dessus, ce qui complique le pelletage.
C'est sûr. Bon, bien, bon courage. Le printemps s'en vient, ça va faire tout fondre.
C'est ce qu'on m'a dit,
espérons-le. Alors, Julien, pour commencer, des nouvelles tirées de Franco-Presse. Des aumôniers du Nouveau-Brunswick et du Québec menacés de révocation sans preuve de compétence en anglais.
On a obtenu une lettre qui a été envoyée aux employés de Bridges of Canada. Ça, c'est l'entreprise qui emploie les aumôniers qui travaillent dans les prisons fédérales. La lettre a été envoyée seulement aux aumôniers du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ce qu'elle dit, c'est qu'ils vont devoir, dans les prochaines semaines, fournir un certificat de compétence dans la langue seconde. Puisqu'on parle seulement du Québec et du Nouveau-Brunswick, des aumôniers qui travaillent dans ces provinces-là, on comprend que c'est surtout la compétence en anglais qui est visée et non pas la compétence en français. Qui choque un des employés à qui on a pu parler sous le couvert de l'anonymat et le député conservateur Joël Godin, c'est que la demande n'a pas été faite au reste du pays pour évaluer les compétences pour assurer l'offre de services en français dans les provinces anglophones. Cette personne-là, là, qui a reçu la lettre, est choquée par la demande. Elle en a parlé avec les collègues, puis elle a même été choquée d'entendre quelqu'un dans l'Ouest lui dire ben, que l'anglais, c'était la langue du Canada. De son côté, Joël Godin, lui, voit un manque d'équité parce que les deux langues officielles doivent être sur un pied d'égalité partout au pays. Puis, on a demandé à Service correctionnel Canada, qui a fait la demande auprès d'un budget du Canada, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec cette nouvelle mesure-là. Puis, ils nous ont indiqué qu'ils ont décidé que l'entrepreneur devait démontrer sa capacité à fournir des services bilingues en anglais et en français au Québec et au Nouveau-Brunswick. C'est effectivement ce qu'on avait compris, mais donc il nie pas ce qu'il y a dans la lettre, ni ils nous ont pas donné d'autres informations si ça allait être appliqué ailleurs non plus.
Le budget de la Nouvelle-Écosse pourrait avoir un impact sur tout le secteur de l'édition des livres.
Dans son budget provincial de 2026-2027, là, qui vient d'être présenté il y a quelques jours, le gouvernement conservateur de la Nouvelle-Écosse prévoit des coupes importantes, dont l'abolition du programme d'aide aux éditeurs. C'est une mesure qui pourrait affecter tout le secteur littéraire en Atlantique, aussi bien en anglais qu'en français. Il n'y a pas de maison d'édition de livres francophones en Nouvelle-Écosse, mais il y a plusieurs acteurs de l'édition du livre dans l'Atlantique qui soulignent quand même que cette décision-là va avoir un impact sur tout l'écosystème parce que c'est quand même moins d'argent qui peut être utilisé dans cet écosystème-là. Il y a des auteurs aussi francophones qui publient en anglais en Nouvelle-Écosse. Il y a des éditeurs anglophones qui publient quand même quelques livres en français. Donc, on a un effet qui peut arriver sur les francophones. En perdant cet appui-là, ça peut limiter les projets, surtout ceux qui parlent des communautés ou de leur histoire, parce que c'est des projets qui demandent plus de recherche, donc qui coûtent plus cher. Ça peut aussi entraîner une diminution du nombre de livres publiés. Puis sans ce budget-là, il y a des événements littéraires, comme peut-être des salons du livre, qui pourraient voir leur financement diminuer. Il y a un appel à la mobilisation qui a eu lieu. Il y a entre autres une campagne qui s'appelle Defend NS Books, Novashkoshia Books, qui a été lancée. Puis il y a une lettre qui a été signée par plusieurs organisations littéraires canadiennes, dont le regroupement des éditeurs francophones du Canada. Reste à voir si le gouvernement va reculer sur ce choix-là ou non.
On le souhaite. C'est dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, dans le droit, la maîtrise du français ne serait pas requise pour le prochain Ombudsman de l'Ontario.
Oui, même si le mandat de l'Ombudsman de l'Ontario, qui s'appelle Paul Dubé, se termine à la fin mars, on n'a toujours pas de nom pour savoir qui va le remplacer. De plus, le bilinguisme n'a jamais été exigé dans le processus d'embauche. Dans l'offre d'emploi, il était seulement mentionné que le français serait un atout et que toutes les entrevues seraient faites en anglais. Ce qui dérange surtout l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, c'est que l'Ombudsman, c'est le patron du commissaire au service en français. Donc, ce serait important que cette personne-là soit capable de comprendre les enjeux francophones et puisse communiquer avec la population en français. Même si c'est principalement le rôle du commissaire, bien, l'Ombudsman a quand même un rôle à jouer. Quand le commissariat a perdu son indépendance, là, quand Doug Ford a fait cette décision-là, ça s'est retrouvé sous l'Ombudsman. La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, avait promis que le prochain Ombudsman serait bilingue. Donc, on attend de voir si la promesse va être tenue. Puis même si le bureau de la ministre affirme vouloir respecter cet engagement-là, il n'y a rien dans la loi sur les services en français ou la loi de l'Ombudsman qui l'oblige à être bilingue. Donc, il va falloir attendre de voir qui va être choisi par le comité.
Oui, il n'y en aura pas de facile, comme dirait l'autre. L'Association canadienne francophone, l'Association canadienne française de l'Alberta veut demeurer canadienne, c'est dans le franco.
Oui, l'ACFA se lance dans le débat référendaire albertain en rejoignant les rangs de l'organisme Forever Canadian ou Canadien pour toujours, qui a été créé par un ancien ministre de l'Éducation de l'Alberta. Selon la présidente de l'ACFA, Nathalie Lachance, le mandat de l'association, c'est de protéger les acquis des franco-albertains. Ça inclut la Charte canadienne des droits et libertés. La plupart des avancées pour la francophonie, aussi bien en Alberta que dans les autres provinces, ça a été obtenu grâce à des luttes souvent aidées par des ententes fédérales provinciales et par la Charte canadienne des droits et libertés. L'association avec Forever Canadian a également encouragé cet organisme-là, qui est assez récent, à devenir bilingues. Ils ont traduit leur nom et leur logo, parce qu'avant, c'était juste en anglais. Je vous rappelle qu'il y a une pétition qui circule actuellement en Alberta là, pour demander un référendum sur l'indépendance de la province. S'il y a des signatures, que ça aboutit, ça ne peut pas être bloqué selon les nouvelles règles. Ça va faire partie d'une série de questions référendaires qui vont être soumises aux Albertains à l'automne.
Vous nous parlez des Jeux de l'Arctique, de très belles performances pour les territoires aux Jeux de l'Arctique.
Oui, c'est les trois journaux francophones des territoires, là, le Nunavoie, l'Aquilon, l'Aurore boréale, qui ont collaboré pour couvrir ces Jeux-là, les Jeux d'hiver de l'Arctique, qui avaient lieu à Whitehorse, au Yukon, cette année. C'est l'Alaska qui a remporté le plus de médailles avec 204. Le Yukon était pas loin derrière, en deuxième place, avec 159, tandis que les territoires du Nord-Ouest en ont eu 86 et le Nunavut, 40. Je vous rappelle que les pays scandinaves aussi et le Groenland participent à ces Jeux-là. C'est pas juste l'Alaska et le Canada. Pendant les Jeux d'Arctique, il y a des sports auxquels on est habitué, comme du patinage et du hockey puis du ski. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les Jeux d'aînés. C'est des d'aînés comme le nom de la première nation des territoires du Nord-Ouest. Ce sont des épreuves basées sur les traditions autochtones et qui servent à renforcer physiquement le corps pour vivre dans les conditions difficiles de l'Arctique canadien. Je vous en présente trois pour vous donner des exemples. Il y en a un, c'est le saut avec les deux pieds. Donc, l'athlète doit sauter soit avec un élan ou sur place, frapper une petite balle qui est suspendue avec au moins un de ses pieds, puis retomber correctement sur ses deux pieds. Et ensuite, le stick pole, ou tirer le tir du bâton peut-être. Là, il y a deux personnes qui tiennent ensemble un même bâton d'environ 20 cm. Mais le bâton est entièrement couvert de graisse.
Oh.
Et le but c'est de l'arracher à l'adversaire, puis c'est celui qui gagne qui remporte l'épreuve. Ça tire son origine de la pêche. Hein. C'est comme un poisson glissant qu'on
essaie
de garder en main. Puis, finalement, j'ai lu un article sur une discipline, un article entier sur une discipline qui s'appelle le airplane. Ça ressemble un peu à une version extrême de la planche. Quelqu'un se couche par terre, il y a quatre personnes qui l'attrapent par les chevilles et les poignets et le soulèvent de terre. Le gagnant, c'est celui qui doit rester immobile. Donc, on peut pas. Le dos doit rester droit, les muscles des bras et des jambes ne doivent pas bouger aussi longtemps que possible. Si vous croyez que c'est facile,
non.
Pas sûr, non, je pense pas, parce que le record du monde date de 2016 et est seulement de 46,69
secondes. Oh, c'est très original. Les Jeux de l'Arctique qui sont en cours ou c'est terminé?
Ça vient de se terminer cette fin-là.
Oui. Bien, merci beaucoup, Julien. C'est ici qu'on va se quitter. Puis je vous souhaite bonne chance dans la neige, bon pelletage. Faites attention à votre dos et à la semaine prochaine.
Oui, absolument. Merci beaucoup.
Sur le site embauche.com, Silvio Morin nous parle d'une exposition. Plus d'une soixantaine de personnes ont assisté dans l'enceinte du musée Marius Barbeau au vernissage de l'exposition Créer sans limite, mettant en valeur le talent, la créativité et l'expression artistique de membres de l'Association des personnes handicapées de La Chaudière. 12 personnes vivant avec une déficience intellectuelle et qui fréquentent l'installation de Saint-Joseph-de-Beauce ont produit plus d'une centaine d'œuvres confectionnées depuis l'automne dernier dans le cadre des cours donnés en collaboration avec le Centre de services scolaires de la Beauce et de Chemin. Le vernissage s'est effectué dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 2026, dont on a parlé tantôt avec Cédric Tremblay-Maltais, qui se déroule du 15 au 21 mars. Alors, si l'exposition vous intéresse, elle est publique et ça se passe au deuxième étage du musée Marius Barbeau jusqu'au 17 avril prochain dans la belle région de la Chaudière-Appalaches. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Mathieu Tessier. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 9h30.